إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. حياكم الله على طاعته. Donc nous allons poursuivre inshallah ta'ala l'explication du livre intitulé Les six fondements, livre écrit par l'éminent savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Et donc nous nous sommes arrêtés au premier fondement. Donc l'auteur, il dit, le premier fondement est le culte exclusif voué à Allah seul, sans associé, et l'exposé de son contraire qui est l'association à Allah. La plus grande partie du Coran expose clairement ce fondement sous divers aspects, dans un langage compris par le plus simple d'esprit d'entre les gens ordinaires. Ensuite, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté, ce qui lui est arrivé, le diable leur a présenté le culte exclusif comme étant une façon de déprécier les saints et de négliger leurs droits, et il leur a fait paraître l'association à Allah sous l'apparence de l'amour des saints et de leur suivi. Donc l'auteur, rahimahullah, a commencé cet épître par l'unicité, le tawhid. Et les causes qui l'ont poussé à cela sont nombreuses. Parmi elles, pour prendre exemple sur le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par le tawhid dans le Coran. En effet, le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, c'est l'ordre du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah: Ya ayyuha an-nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô hommes, adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Et ce qui est voulu par le terme adorer, c'est unifier. Aussi l'auteur, il a commencé par l'unicité pour prendre exemple sur les prophètes. Car tous les prophètes ont commencé leur prêche par le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de Nuh alayhi salam: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction: nous avons envoyé Nuh à son peuple et il leur dit: ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi à propos du prophète Shu'aib alayhi salam: wa ila madyan akhahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Et l'éminent savant, Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il nous dit que tous les prophètes ont commencé leur prêche par cette parole. Donc tous les prophètes, sans exception, ont appelé au tawhid. Et ils n'ont pas laissé une opportunité sans appeler Ikhwani fillah au tawhid. Même lorsqu'ils étaient en difficulté, ils appelaient les gens au tawhid. Prenons l'exemple du prophète Youssouf alayhi salam. Malgré qu'il était en prison, il a appelé les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a utilisé dans cela un des meilleurs procédés. Car comme il est connu de l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, des gens l'ont questionné concernant une vision. Et le prophète Youssouf, alayhi salam, en a profité pour les appeler au tawhid. Et on tire de cette manière de faire, ikhwani fillah, que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala doit profiter des bonnes occasions qui s'offrent à lui pour prêcher. Et ici, la bonne occasion qui s'est offerte au prophète Youssouf alayhi salam, c'est que ceux qui l'ont questionné avaient besoin de lui. Et le fait qu'il les aide et qu'il soit bienfaisant envers eux, puis ensuite qu'il les appelle au tawhid, ceci est plus propice pour qu'ils acceptent cet appel. C'est pour cela que l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman ibn Si'adi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans le tafsir de Surat Yusuf, je cite, « Il se peut que Yusuf alayhi salam ait voulu les appeler à la fois dans cette situation où ils avaient besoin de lui pour que son appel soit accepté plus facilement. » Fin de citation. Ceci, ikhwani fillah, car la bienfaisance envers les gens a un impact majeur sur eux. La bienfaisance envers les gens a un impact majeur sur eux. C'est pour cela que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit dans son livre intitulé « Certains profits de Surat Al-Fatiha » « La nature de l'homme, c'est qu'il aime celui qui est bienfaisant envers lui. » Fin de citation. Donc Youssouf alayhi salam, après avoir répondu à leurs questions, il commença par évoquer et reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction du verset, ceci relève de ce que mon Seigneur m'a enseigné, car je me suis tenu éloigné de la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et renie l'au-delà. Et ici, ikhwani fillah, il est bon de souligner que ce verset ne montre en aucun cas que le prophète Youssouf, alayhi salam, était mécréant. Car ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction, ceci relève de ce que mon Seigneur m'a enseigné, car je me suis tenu éloigné. Ici, c'est le verbe taraktu qui a été utilisé. C'est comme délaisser ou s'être éloigné. Mais ceci, ça ne veut pas dire que Youssouf, alayhi salam, était sur la religion de son peuple. Car les prophètes n'ont pas fait de shirk, comme vous le savez. Ensuite, après cela, Youssouf, alayhi salam, les a informés concernant sa religion. Et il leur a expliqué ce que comporte sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction, et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous appartient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci relève de la grâce qu'Allah nous a faite, ainsi qu'aux hommes, mais la plupart ne sont pas reconnaissants. Et après cette étape, le prophète Youssouf alayhi salam les a appelés clairement à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Ya sahib sijn ya arbab mutafarriqun khayrun amillahu al-wahidul qahhar ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan in al-hukmu illa lillah Amara Allah ta'budu illa iyyah. Al-Aïe. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction: Ô occupants de cette prison, l'adoration de divinités multiples est-elle meilleure que l'adoration d'Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des statues que vous et vos ancêtres avez nommées divinités. Et concernant l'adoration, desquelles Allah n'a révélé aucune preuve, le pouvoir n'appartient qu'à Allah qui vous a ordonné de n'adorer que lui. Donc en résumé, tous les prophètes ont appelé au tawhid et même lorsqu'ils étaient en difficulté, ils appelaient quand même le tawhid et ne délaissaient jamais le tawhid. Donc l'auteur, il a commencé son épître par le tawhid pour prendre exemple sur le Coran et aussi sur les prophètes. Et avant de revenir à l'explication de la parole de l'auteur, il y a un sujet très important qu'il faut évoquer. Et il est important de comprendre ce sujet. Beaucoup de gens parmi les musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, se plaignent des nombreux troubles et épreuves par lesquelles passe la communauté ces derniers temps. En disant par exemple que les musulmans sont devenus faibles et qu'ils se font tuer dans beaucoup de pays et que l'insécurité s'est propagée dans de nombreux pays musulmans et que la vie est devenue difficile. Après ces plaintes, vient le moment des accusations. Ils disent aussi, et vous les gens de la Sunna, vous ne vous préoccupez pas des problèmes de la communauté, mais plutôt vous passez votre temps à appeler à l'unicité, alors que la communauté n'a pas besoin de cela, et ils disent beaucoup d'autres choses. Et concernant la réponse à ces plaintes et ces accusations, nous pouvons dire premièrement que le tawhid est la base sur quoi la religion de l'islam est basée. Et donc donner de l'importance au tawhid revient à donner de l'importance à la base. Aussi, l'une des plus grandes causes qui ont plongé la communauté dans les troubles, c'est le délaissement du tawhid et la propagation du shirk. Et il est bon aussi de mentionner qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a donné l'issue au trouble et il nous a informé comment les musulmans peuvent avoir la suprématie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 55 de sourate La Lumière: Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses de leur donner pouvoir sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, de donner force et suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux, et de les faire passer de la crainte à la sécurité. Ceci car il m'adore et ne m'associe rien. Donc qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à la fin du verset? Ceci car il m'adore et ne m'associe rien. Donc le fait de revenir au tawhid et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, et de revenir à la croyance authentique, c'est une cause ikhwani fillah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la suprématie. Donc l'auteur, il dit, le premier fondement est le culte exclusif voué à Allah, seul sans associé. Nous avons déjà mentionné, ikhwani fillah, dans des cours précédents, que l'unicité se divise en trois catégories. Nous avons l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs. Et nous avons expliqué l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration. Mais la question qui se pose, ikhwani fillah, est quelle est la différence entre ces deux unicités? Nous allons mentionner ici certaines différences entre ces deux catégories d'unicité. La première différence est que la seigneurie en arabe, donc ar-rububiyya, est tirée du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-rab, le seigneur. Alors que l'adoration, al-uluhiyya en arabe, est tirée du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-ilah. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, la seigneurie est rattachée à des choses telles que la création, la subsistance, donner la vie, donner la mort et autres. Alors que l'adoration, l'unicité de l'adoration, est rattachée à des ordres et des interdits tels que prier, jeûner, etc. La troisième différence est que la seigneurie est reconnue par les polythéistes, alors que l'adoration n'est pas reconnue par les polythéistes, c'est-à-dire qu'ils associent dans cette catégorie. Et la dernière différence qu'on peut mentionner est que l'unicité de l'adoration fait entrer la personne en islam, alors que l'unicité de la seigneurie ne fait pas entrer la personne en islam, comme l'a mentionné l'auteur dans son livre intitulé « Les quatre règles ». Donc l'auteur ensuite, il nous dit, le premier fondement est le culte exclusif voué à Allah, seul sans associé, et l'exposé de son contraire qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir mentionné l'unicité, l'auteur a mentionné directement le shirk. Pour que la personne connaisse le shirk, et aussi pour mettre en garde contre la dangerosité du shirk, également pour la connaissance du tawhid. Comme nous l'avons déjà mentionné, le tawhid s'apprend de deux manières. La première des manières, on apprend le tawhid en apprenant les sortes de tawhid. On apprend l'unicité de la seigneurie, on étudie l'unicité des noms et attributs, l'unicité de l'adoration. On apprend et on étudie les différentes adorations telles que la peur, la crainte, le tawakkul, etc. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième, c'est d'étudier son contraire qui est le shirk. Donc ce sont les deux manières d'apprendre et d'étudier le tawhid. En apprenant le tawhid lui-même et aussi en étudiant le shirk, qui est le contraire du tawhid. Conformément au hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, il disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, les gens questionnaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, mais je le questionnais sur le mal, de peur qu'il m'atteigne. Et donc Hudhayfa ibn al-Yaman, il questionnait sur le mal, de peur qu'il l'atteigne. Et donc c'est l'une des manières aussi de connaître l'unicité. Tu apprends et tu étudies son contraire pour pouvoir t'en écarter. Et regardez avec ce procédé, c'est-à-dire en posant de nombreuses questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mal et sur les troubles, Hudhayfa ibn al-Yaman était l'un des plus grands savants parmi les compagnons concernant les troubles. Et c'est pour cela que de nombreux compagnons revenaient souvent à lui lors des fitaines. Mais lorsqu'on apprend le shirk, ce n'est pas pour le mettre en pratique, mais c'est pour s'en préserver et s'en protéger. Car celui qui n'apprend pas le shirk risque de tomber dans le shirk. Et donc il convient d'étudier le shirk en détail, tout comme on étudie le tawhid en détail. C'est pour cela que dans ce cours, Inch'Allah, nous allons voir plus en détail qu'est-ce que le shirk. Et le premier point que l'on va voir, c'est la définition du shirk d'un point de vue général. Et sa définition d'un point de vue général, c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Et ce qui est propre à Allah est de trois types: la seigneurie, l'adoration et les noms et attributs. Donc le shirk peut être dans les trois catégories d'unicité. Celui qui a la conviction qu'une personne peut créer en dehors d'Allah, il a certes associé dans la seigneurie. Tandis que celui qui voue une adoration pour autre qu'Allah a associé dans l'adoration. Et celui qui fait ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs des créatures a certes associé dans l'unicité des noms et attributs. Et le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux catégories. La première catégorie, le fait de donner un égal à Allah. Et ceci va te faire sortir de l'islam. Et c'est ce qu'on appelle le shirk al-akbar, le polythéisme majeur. Et la deuxième catégorie est le fait de donner un égal à Allah, mais ceci ne va pas te faire sortir de l'islam. Ce qu'on appelle le shirk al-asrar, le polythéisme mineur. Donc on comprend de cette parole qu'il y a deux catégories de polythéisme, le majeur et le mineur. Malgré que certains savants ont mentionné que le polythéisme se divise en trois catégories: le shirk majeur, le shirk mineur et le shirk caché. Mais beaucoup de savants sont d'avis qu'il se divise seulement en deux catégories. Et ceci est l'avis le plus juste, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que le polythéisme mineur, il a dit l'ostentation. Donc les savants ont tiré de cela que s'il y a un polythéisme mineur, il y en a forcément un qui est majeur. Maintenant, nous allons voir la définition du polythéisme mineur et du polythéisme majeur. Concernant le polythéisme majeur, les savants ont mentionné plusieurs définitions. Mais la définition que nous avons choisie ici est celle de l'éminent savant et Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que le shirk majeur, c'est tout polythéisme que la législation a nommé polythéisme et inclut que la personne sort de l'islam. Donc selon Cheikh Al-Uthaymin et beaucoup d'autres savants, le shirk, c'est tout polythéisme, tout shirk que la législation a nommé comme étant du shirk. Et ceci inclut que la personne sort de l'islam. Et concernant le shirk asrar, le polythéisme mineur, les savants ont mentionné plus de définitions. Et là, j'attire votre attention sur ce sujet, car c'est un sujet qui est important. Certains savants ont mentionné que le polythéisme mineur, c'est toute parole ou action que la législation a nommée shirk, mais ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Toute parole ou action que la législation a nommé shirk, donc polythéisme, mais ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Même si c'est une chose qui est grave, cette personne ne sort pas de l'islam. Donc selon cette définition, lorsque l'on nomme cette action comme étant du shirk, il faut avoir une preuve, soit du Coran ou soit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est la première définition. Ensuite, nous avons la deuxième définition qui est le shirk, c'est toute chose. Le shirk asrar, donc le polythéisme mineur, c'est toute chose qui va mener au polythéisme majeur. Donc voici la deuxième définition. Toute chose qui va mener au polythéisme majeur. Et donc, selon cette définition, pour nommer une action polythéisme mineur, il ne faut pas forcément avoir une preuve du Coran ou une preuve de la Sunna. Mais à partir du moment où les savants estiment que cette action mène au polythéisme majeur, alors on peut appeler cette action-là comme étant du shirk mineur. Et la question qu'on peut se poser au vu de ces deux définitions est: quelle est la différence entre les deux définitions? La différence entre les deux définitions, ikhwani fillah, c'est que si on se base sur la première définition, le shirk va être restreint, car on sera obligé de regarder dans le Coran ou dans la Sunna, alors que la deuxième définition, c'est toute chose qui mène au shirk akbar. Alors à ce moment-là, il y aura plus de shirk, car il ne sera pas restreint par le Coran et la Sunna. Et c'est important de maîtriser ce genre de sujet, car avec la compréhension de ce sujet-là, on comprend mieux pourquoi des fois, certains savants vont dire d'une action, elle n'est pas permise, ou c'est une innovation. Tandis que d'autres savants vont dire que ceci rentre dans le polythéisme mineur. Les savants qui vont dire que cette action est interdite ou est une innovation, ils vont dire cela car il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna que cette action et du polythéisme. Donc ils vont dire que c'est interdit, ou bien ils vont dire que c'est une innovation. Car selon eux, le shirk mineur, c'est toute parole et action que la législation a nommée comme étant du shirk et qui fait sortir la personne de l'islam. Donc il faut une preuve, soit du Coran ou soit de la Sunna, pour dire que cette action est du shirk. Et comme ici nous n'avons pas de preuves, alors ils disent que cette action est interdite ou bien que c'est une innovation. Tandis que certains savants, lorsqu'ils vont parler de la même action, ils vont te dire que ceci est du polythéisme mineur, car ils estiment que que cette action n'est qu'une passerelle vers le polythéisme majeur. C'est pour ça qu'ils vont l'appeler polythéisme mineur. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de contradiction entre les savants dans ce genre de situation. Mais certains se sont basés sur une définition, tandis que d'autres se sont basés sur une autre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et concernant le shirk mineur, il y a une troisième définition. Et certains de nos savants au Yémen disaient que cette définition est la plus juste, car en vérité, elle regroupe les deux définitions précédentes. Et cette définition est celle de Lejna Daima en Arabie Saoudite. Ils ont mentionné que le shirk asra, le shirk mineur, c'est toute chose qu'a interdit la législation. Parmi les choses qui vont mener au polythéisme majeur et qui vont mener à tomber dedans et que la législation a nommé comme shirk. Donc cette définition, ça nous fait sortir de la divergence et elle regroupe les deux définitions précédentes. C'est pour cela que certains de nos mashayikhs mentionnaient que c'est l'avis, incha'Allah ta'ala, le plus juste et la définition la plus complète concernant le polythéisme mineur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc après avoir parlé des différentes définitions, nous allons continuer à parler du shirk. Et pour ce faire, nous allons répondre à une question. Et cette question est: quand est-ce que le shirk est apparu? Et comment est-il apparu et quelle est la cause? La réponse à cette question est que Ibn Jarir rapporte dans son tafsir, d'après Ibn Abbas, qu'entre le prophète Nuh, alayhi salam, et le prophète Adam, il y avait 10 siècles. Et ils étaient tous sur l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils ont divergé. C'est-à-dire que certains ont commencé à faire du shirk. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé les prophètes. Donc nous comprenons de cette parole que le shirk est apparu dans le peuple de Nuh, alayhi salam. Reste maintenant à savoir quelle est la cause de son apparition et comment est-il apparu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction, et leur ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. N'abandonnez jamais Wud, Suwa, Yarouth, Yaouk, ni Nasr. Et le tafsir de ce verset est venu dans Sahih al-Bukhari. D'après Abdullah ibn Abbas, il a mentionné que ces noms, donc les noms qui sont mentionnés dans le verset de Surat Nuh, sont des hommes pieux du peuple de Nuh. Et que lorsqu'ils sont morts, le shaitan a dit à leur peuple de faire des représentations à leur effigie, chose qu'ils ont fait. Et au début, ils n'ont pas été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il y avait des savants, et ces savants-là connaissaient le tawhid. Et lorsque cette génération disparut, et que la science fut oubliée, ils ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la cause de l'apparition du shirk, c'est l'exagération du peuple de Nuh concernant les pieux. Donc on revient à la parole donc de l'auteur. L'auteur, il nous dit, et l'exposé de son contraire, qui est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est voulu par l'association ici, c'est l'association dans l'adoration. Et les raisons à cela sont nombreuses. Parmi elles, il y a le fait que le shir l'a considéré comme le contraire du tawhid. Et comme ceci est connu, les prophètes ont appelé principalement à l'unicité dans l'adoration. Car le shirk dans la seigneurie n'était pas quelque chose de connu dans les communautés précédentes. Même s'il y a certaines communautés ou certains peuples qui ont associé dans la seigneurie, mais la plupart d'entre eux reconnaissaient la seigneurie. Et ceux qui ont renié la seigneurie en règle générale, c'est qu'ils s'enflaient d'orgueil. Prenons par exemple l'exemple de Pharaon. Malgré qu'il ait prétendu la seigneurie, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans sourate An-Nazi'at, wa qala ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne qu'il a dit cette parole et a prétendu la seigneurie, car il s'enflait d'orgueil. Car il s'enflait d'orgueil, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 14 de sourate An-Naml, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils les renièrent par transgression et orgueil. Donc Pharaon a renié la seigneurie par transgression et orgueil. Et lorsque l'auteur il dit, la plus grande partie du Coran expose clairement ce fondement, ici l'auteur il nous mentionne que la plupart du Coran traite du tawhid. Et ceci est un avis. Ceci est un avis, le fait que la plupart du Coran traite du tawhid. Et d'autres savants vont bien plus loin que cela. Et ils nous disent que tout le Coran traite du tawhid. Comme l'a mentionné l'éminent savant Ibn al-Qayyim. Il nous dit, rahimahullah, que tout le Coran traite du tawhid. Car dans le Coran, soit Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à propos de ses noms et de ses attributs, ou soit il nous ordonne de l'adorer seul, sans rien lui associer, et nous interdit de faire du shirk, ou bien il nous ordonne de lui obéir et d'obéir à son prophète, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala nous informe concernant ce qu'il a réservé aux monothéistes comme bienfaits, réussite et secours dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ou encore il nous informe de ce qu'ont eu les polythéistes comme châtiment dans leur vie d'ici-bas et ce qui leur a été préparé dans l'au-delà comme châtiment éternel et qu'ils seront en enfer éternellement. Et donc il nous dit que le Coran en règle générale, ne sort pas de tout cela. Et donc, selon lui, tout le Coran traite du tawhid. Et tout le Coran tourne autour du tawhid. Et certains savants ont appuyé la parole d'Ibn Qayyim en disant qu'en règle générale, tu ne trouveras pas une sourate du Coran sans qu'elle traite du tawhid et l'interdiction de vouer une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur il nous dit, sous divers aspects, dans un langage compris par le plus simple d'esprit d'entre les gens ordinaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré ce principe en utilisant de nombreux procédés. Parmi ces procédés, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a démontré l'état des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a démontré leur faiblesse et leur incapacité en mentionnant parfois qu'ils sont incapables de créer et qu'ils sont incapables de se secourir et de secourir ceux qu'ils adorent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 191 de sourate Al-A'raf, Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Donc il dit, lui associe-t-il des idoles qui ne créent rien et sont eux-mêmes créés et qui ne sont d'aucun secours ni pour leurs adeptes ni pour eux-mêmes. Et parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que ces divinités ne possèdent rien. Alors comment est-ce possible de leur demander quelque chose? Comment est-ce possible que quelqu'un invoque cette divinité alors qu'elle ne possède rien? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela pour nous faire comprendre que lui seul mérite l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Fatir: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Il dit: quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si tel est le cas, comment peut-on demander à ces divinités quelque chose de plus important que la pellicule d'un noyau de date, telle que la guérison, la subsistance et autres? Et l'un des procédés aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé, c'est ce qu'on a mentionné dans les trois fondements. Le fait qu'il a mentionné l'unicité dans la seigneurie comme preuve et argument qu'il mérite l'adoration seul, sans associé, et qu'il est interdit de vouer une adoration pour autre que lui. Ensuite, l'auteur il nous dit, donc compris par le plus simple d'esprit d'entre les gens ordinaires. Si tu lirais à une personne du commun des musulmans, dont la sainte nature n'a pas changé, tu lui lis par exemple la parole d'Allah, « Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a » et adorer Allah et ne lui associer rien, il comprendrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer seul et qu'il interdit le shirk. C'est pour cela qu'un grand savant de cette communauté, Cheikh Abdel Latif, rahimahullah, le petit-fils de l'auteur, a mentionné que certaines personnes, parmi ceux qui prêchaient le polythéisme, ont demandé à une personne parmi les gens du commun des musulmans de vouer l'adoration pour une personne morte. Ensuite, ces individus ont mentionné un verset du Coran. Ils ont mentionné le verset 169 dans sourate Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ils ont cité le verset: ne pense surtout pas que ceux qui sont tués sur le sentier d'Allah sont morts. Ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur pourvu. Et donc, lorsque la personne du commun a entendu ce verset, il leur a répondu que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils sont pourvus et non pas qu'ils pourvoient. Et donc, ils ne pouvaient pas les adorer en dehors d'Allah et il est parti. Ça, ikhwani fillah, c'est la réponse d'une personne parmi les gens du commun dont la fitra n'a pas changé et n'a pas été encrassée par les innovations. Car en vérité, tous ces versets qui parlent du tawhid et qui traitent de l'interdiction du shirk sont clairs, sont très clairs, et il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études ou d'avoir une grande connaissance de la religion pour les comprendre. Ensuite, l'auteur il dit, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté, ce qui lui est arrivé, le diable leur a présenté le culte exclusif comme étant une façon de déprécier les saints et de négliger leurs droits. Et il leur a fait paraître l'association à Allah sous l'apparence de l'amour des saints et leur suivi. Le shir veut par là nous montrer que le shaitan Après que les gens ont exagéré envers les pieux, que vouer un culte exclusif à Allah était considéré comme un dénigrement et un rabaissement des pieux. Un rabaissement des pieux et de leurs droits. Et concernant les pieux, les gens se sont divisés en trois catégories. La première catégorie, ikhwani fillah, sont ceux qui ont fait preuve de laxisme envers les pieux. Ils n'ont pas respecté les pieux. Ils n'ont pas respecté leurs droits, tels que les aimer par exemple, tels que les respecter. Et ces gens-là, ikhwani fillah, sont les juifs. Car les juifs ont tué certains prophètes, alors que les prophètes sont venus avec la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont pas respecté les pieux, et ils ont malheureusement tué certains pieux. La deuxième catégorie sont ceux qui ont exagéré concernant les pieux. Ils les ont élevés au-dessus de leur rang, jusqu'à les adorer et leur attribuer certaines choses de la seigneurie, comme l'ont fait les chrétiens et ceux qui leur ressemblent dans cette communauté, tels que les adorateurs de tombes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant les chrétiens, « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah » Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Maryam, pour seigneur, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième catégorie, ce sont les gens du juste milieu, qui aiment les prophètes, les respectent, leur donnent leurs droits, mais ils ne prétendent pas qu'ils sont infaillibles et ils ne les adorent pas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.